Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, donc j'ai le plaisir immense de retrouver Nelly Kars et Bruno Lambert. Vous vous souvenez certainement d'eux, je l'espère, puisque nous avons soutenu activement ce challenge qui a été réalisé il y a quelques mois par Nelly et Bruno. Il s'agissait de la traversée des lacs de la région PACA, 10 km de nage pendant 10 jours, autant dire 100 km, un challenge qui n'était pas uniquement sportif, mais pour une cause environnementale, Nelly et Bruno. Bonjour.
Oui, bonjour Odile.
Bonjour Odile.
Alors, on va revenir sur ce challenge, puisqu'il a une visée non pas uniquement sportive, mais effectivement pour sensibiliser les personnes à cette richesse qui se fait rare, l'eau, c'est ça ?
Voilà, ben c'est ça. En fait, le projet Water Story est né en 2016 et puis en fait, on a commencé à l'officialiser, à le médiatiser en 2017. Le premier volet de ce projet, c'était la mission, le challenge La Dame des Lacs. Alors l'objectif, c'était effectivement, comme vous l'avez dit, de nager 100 km sur les lacs alpins et de l'arrière-pays provençal pour attirer l'attention du public sur l'eau. Ce premier volet a été réalisé par Nelly. Enfin bon, on était deux. Moi, j'étais effectivement sur la partie logistique et tournage, ce qui n'était pas non plus sans souci. Par contre, Nelly était immergée pendant 10 jours, sans compter évidemment tous les temps d'entraînement qui ont été relativement longs, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 1000 km d'entraînement sur les dernières années. Alors c'est un chiffre à peu près, c'est assez approximatif. Je le répète, le but étant donc d'attirer l'attention du public sur l'eau. Alors l'eau en tant que ressource et l'eau en tant qu'élément. On arrive maintenant sur la deuxième phase du projet Water Story, c'est-à-dire le projet H2O. Alors H2O, H2 et puis EAUX, d'accord, qui lui est destiné à sensibiliser, éduquer donc le public, enfants, adultes, estivants potentiels, sur l'eau dans tous ses états, sur l'eau en Provence et l'eau dans le monde. Alors peut-être que je vais laisser la parole à Nelly à la limite pour faire le lien entre son challenge et le projet, je ne sais pas.
Bon, on va revenir rapidement sur ce challenge, notamment pour nos stagiaires qui découvrent un peu comment ça s'est passé déjà, parce que bien sûr vous êtes arrivés saines et sauves au bout de ce challenge.
Alors le but effectivement c'était quand même d'arriver saines et sauves. À l'origine le challenge il a été conçu pour être réalisé en toute sécurité. C'est-à-dire qu'il fallait que je puisse le faire en restant à minima, on va dire au maximum de mes capacités. Je devais toujours rester à la moitié de mes capacités durant la nage. Donc il a duré une dizaine de jours. On peut dire qu'il y a eu approximativement 10 km par jour, mais dans la réalité, il y a eu des étapes plus courtes et d'autres plus longues, notamment sur le lac de Sainte-Croix où il y a eu 17 km dans la même journée. Donc là, c'était vraiment un très très gros morceau. Concrètement, il y a eu des difficultés tout le long du challenge, mais pas uniquement des difficultés de nage. Durant la nage, il y avait effectivement de la fatigue qui s'est accumulée. Ça a duré une dizaine de jours, donc 10 jours de nage d'affilée. C'est épuisant. Par contre, à terre, il y avait aussi Bruno à la logistique, au tournage. Et on a perdu tous les deux plus de 3 kilos.
Ah oui.
Donc c'est pas uniquement moi qui étais fatiguée.
Pour les auditeurs qui connaissent le lac de Sainte-Croix, parce qu'on est ici à Digne, quand Nelly dit qu'elle a nagé 17 km, on peut se poser la question, comment trouver 17 km sur le lac de Sainte-Croix alors qu'il fait 12 km, effectivement, d'un bout à l'autre? C'est tout simplement parce que Nelly est remontée assez loin dans les gorges du Verdon, donc au-delà de la cascade de Saint-Morin, pour les gens qui connaissent. Ensuite, est redescendue et après a dû longer les côtes et voir se détourner parce qu'en fait, il y a d'autres utilisateurs sur les lacs. Alors, ça fait aussi partie du projet. Et Nelly est arrivée au moment où une régate était en train de s'organiser entre Baudouin et Sainte-Croix. Donc du coup, ça a obligé un grand détour, ce qui fait que cette étape a été énormément longue. Et lorsque Nelly est arrivée, elle était complètement épuisée. En revanche, les toutes premières étapes qui se sont déroulées sur le lac de Serponçon étaient beaucoup plus courtes. C'était des étapes qui faisaient 5-7 km, donc des étapes de mise en route quelque part, pour pouvoir justement rester en dessous de ses capacités et arriver à sortir le 15 septembre. Voilà. Donc c'est vrai que c'était une gestion assez difficile. Un truc que je voudrais rajouter aussi, c'est que l'idée du projet Water Stories est née en 2016 et on était loin de s'imaginer qu'en 2017, on allait subir une telle sécheresse en Provence comme ailleurs. Donc en fait, ce projet tombe à pic, comme si effectivement certains projets, comme des livres, des films, devaient arriver au bon moment. Alors c'est vrai que nous, ça nous permet de rebondir là-dessus et de remettre une couche en matière de transmission d'informations et de connaissances sur l'eau.
Et par rapport à ce film, donc, vous en êtes où, puisqu'il y a eu des images prises en amont du challenge, pendant et après?
Alors, toutes les images qui ont été prises en amont du challenge nous ont permis de constituer les clips de présentation et du projet dans sa globalité et du challenge. Ces images-là vont également donc être incluses dans le documentaire de 52 minutes qu'on va appeler La Dame des Lacs. Alors, pour rappel, La Dame des Lacs, c'est évidemment une allusion à la légende arthurienne. Et en fait, c'est le surnom qui avait été donné à Nelly localement par les autres usagers du lac qui nous voyaient régulièrement. Donc, c'est resté et ça restera le titre du documentaire. Actuellement, le film est en cours de montage, le dérochage est fait, donc il y a quelques dizaines de milliers de tout petits plans, c'est considérable, donc pour faire un 52 minutes. Nous avons encore quelques interviews à réaliser auprès des différents acteurs de l'eau, alors des gens, des hydrauliciens d'EDF, des gardes de parc, des hydrobiologistes, etc., etc., qui vont donc illustrer l'eau version scientifique et version multi-usage, tandis que Nelly, elle, va raconter son challenge et son aventure entre deux mondes, on va dire, entre deux mondes. Monde, celui de l'imaginaire et celui de la réalité. Parce qu'en fait, quand on nage beaucoup comme ça, c'est comme quand on marche ou quand on grimpe, on a souvent tendance à lâcher prise et à perdre pied avec la réalité. Et c'est assez important parce que c'est ce qui donne une dimension un petit peu mystique et spirituelle à toutes les grandes aventures. Alors, pour contrebalancer cette approche, il y aura donc des techniciens et des scientifiques qui interviendront au cours de ce documentaire. Le documentaire constitue l'un des 5 supports du projet H2O, du projet éducatif. C'est-à-dire que c'est la clé de voûte du projet éducatif. C'est-à-dire qu'à partir de ce documentaire, on sera amené à organiser des animations scolaires, des conférences tout public de sensibilisation l'été sur les sites où il y a une grosse affluence, comme le lac de Sainte-Croix, le lac de Castillon, voire même le lac de Serponçon. Et servira également de support de conférences pour les gens qui veulent peut-être aller plus loin dans la connaissance de l'eau. Alors, je le rappelle, le concept des Marcheurs de la Terre, puisque c'est un projet qui est tutélé par les Marcheurs de la Terre, c'est d'amener la connaissance et l'émerveillement à partir du rêve, à partir d'un challenge. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'expéditions polaires en Amazonie, dans le désert. Cette année, ça s'est fait localement. Alors, ce n'est pas une expédition, c'est un défi sportif, d'accord ? Mais le but est le même, c'est-à-dire c'est un vecteur de rêve qui va permettre donc d'amener la connaissance. Le principe étant, d'étendre les gens, de les sensibiliser par l'image, par le défi, par le challenge personnel et petit à petit, donc, d'amener effectivement les problématiques qui seront déclinées différemment en fonction des supports. Le deuxième support de ce projet, j'ai fait pas mal de jeux de mots, c'est une petite série de clips qu'on va appeler les fondamentaux. Fondamentaux. Alors, dans ce clip-là, le but, c'est d'interviewer différents acteurs de l'eau, alors des techniciens, des usagers, des scientifiques, pour leur permettre d'adresser un message d'une minute, une minute trente, un message très court qui sera illustré au tout public. Alors, c'est un gros défi, là aussi, parce qu'en fait, on peut faire parler un conférencier pendant 2 heures, il ne s'arrêtera pas. Par contre, arriver à donner un message très court en disant « attention, l'eau c'est ci, l'eau c'est ça » en 45 secondes ou une minute, ce n'est pas facile. Ça, c'est les fondamentaux. Ensuite, on va avoir l'outil que j'ai nommé « à quoi ça sert ». Là aussi, il y a un jeu de mots. Alors, l'outil « à quoi ça sert », alors c'est un outil, ce sont des fiches pédagogiques en ligne qui seront téléchargeables gratuitement pour les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, etc. Les centres aérés qui permettront, donc, ce sont des outils qui permettront effectivement d'approfondir un petit peu sa connaissance pratique sur la gestion de l'eau au quotidien. Comprendre d'où vient l'eau, comment elle est captée, comment elle est distribuée, comment elle est donc dépolluée, assainie, etc., etc. Ce qui justifie le prix de l'eau, etc. C'est-à-dire que l'eau, effectivement, aujourd'hui, c'est une ressource, qui est habituelle pour tout le monde. On prend sa douche, on ouvre le robinet, et puis ça coule, quoi. Et en fait, il y a toute une histoire en amont du robinet et en aval du robinet. Donc, c'est important, effectivement, de refaire un petit point là-dessus. Je parle beaucoup, Odile, mais je oui. Termine mes 5 outils. Je peux.
Bien sûr.
le troisième outil, il y a encore un jeu de mots, c'est au pluriel. Alors cette fois-ci, c'est une exposition itinérante qui sera destinée à accompagner nos conférences et nos animations, qui pourra être également louée aux mairies, aux autres collectivités et autres, qui vise à sensibiliser le public sur l'eau en tant élément, mais non pas en tant que ressource, c'est-à-dire l'eau dans tous ses états. Alors c'est un petit rappel sur le cycle de l'eau, c'est l'eau liquide, c'est l'eau de mer, c'est l'eau glaciée, les calottes glaciaires, etc. etc. C'est histoire de donner un clin d'œil esthétique sur cet élément qui est remarquable, c'est-à-dire qu'effectivement cet élément est transformé en ressource. Après, la ressource, c'est le robinet, d'accord ? Mais il est important aussi de regarder l'eau en tant qu'élément naturel, de façon à l'apprécier, de façon à l'aimer, partant du principe qu'on ne protège que ce que l'on aime. Donc il faut d'abord aimer l'eau avant de la protéger. Ensuite, si j'oublie, Nelly,
je pense que tu es bien parti. Hein.
Il va y avoir effectivement des cycles de conférences, d'animations scolaires, etc., comme j'ai dit tout à l'heure. Donc également des sorties de terrain qui seront encadrées par des accompagnateurs diplômés. Donc habilités à accompagner des gens dans les endroits plus ou moins accidentés avec une thématique autour de l'eau. Alors la thématique de l'eau, effectivement, ici en Provence, on n'en manque pas, et dans les Alpes du Sud, parce qu'il faut quand même rappeler que ce territoire-là, on va dire que tout le territoire PACA, avant, l'ennoiement des vallées, qui étaient par ailleurs désastreuses pour diverses raisons, quoi, était un grand désert. Donc c'est important de le rappeler, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque de nos parents, voire de nos grands-parents, dans les campagnes, c'était la mule ou l'âne qui prenait les seaux et qui allait chercher l'eau au puits. C'était un petit peu Manon des Sources, surtout sur la partie sud de PACA, quoi. Donc il faut quand même le rappeler. Alors que depuis maintenant une cinquantaine d'années, on a de très nombreux lacs qui permettent d'éviter donc ce genre de difficultés. Voilà, je pense avoir fait le tour au niveau des cinq supports.
Oui, je pense que tu as fait le tour. L'idée, c'est quand même vraiment de pouvoir vulgariser au maximum de manière à accompagner le public sur une transition qui est très importante, qui est imminente finalement. Donc cette forme de vulgarisation va permettre à un public très large, c'est-à-dire des tout petits ou plus âgés, de mieux appréhender cette nécessité.
Alors, oui.
Pardon, oui. En fait, ce que dit Nelly, c'est très important parce qu'en fait... ces dernières années, on travaillait souvent avec des films, des conférences, des animations scolaires, mallettes pédagogiques et puis des expos. En fait, on s'est rendu compte, en croisant diverses personnes, qu'il existe un nouveau type de public, aussi comme vos jeunes stagiaires, qui n'ont pas toujours l'attention que nous, on pouvait avoir. C'est-à-dire que les messages longs sont à 52 minutes, une conférence longue, etc. Ça peut être très, très intéressant. L'attention des jeunes gens s'amenuise très, très vite aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place les fondamentaux, donc qui sont des petits clips rapides. C'est facile à dire, mais ce n'est pas nécessairement facile à faire. Voilà, histoire de toucher un autre public. Alors ces clips seront évidemment consultables avec tous les outils dont on dispose, ordinateur, tablette, smartphone, évidemment. Et ça nous permet de toucher un autre public. De même que les fiches pédagogiques en ligne, ne serait-ce que 15 ans en arrière, même 10 ans en arrière, même si ça existait déjà, ça ne venait pas à l'esprit, effectivement, de fournir ce type de support. Donc la construction de ces nouveaux supports, justement, permet de diffuser la connaissance sur un très, très, très large spectre. Et l'eau aujourd'hui, l'eau comme l'air, de toute façon, comme toutes les autres ressources, est très, très d'actualité. Et on ne sait pas du tout ce que va donner 2018-2019, les années à venir en matière de sécheresse. Mais c'est vrai qu'on est tout doucement en train de reprendre un nouveau cycle. On dirait qu'il va y avoir une sécheresse, une saison des pluies. Et ça va amener à des nouveaux modes de gestion, donc de consommation.
Est-ce qu'on peut faire une pause musicale ?
C'est vous qui pilotez.
Alors, vous nous avez choisi donc une chanson de Bernard Lavilliers. Vous avez envie d'en dire deux mots ou après ?
Oh non, la chanson de Bernard Lavilliers est assez connue. C'est Croisière méditerranéenne, donc c'est une façon très poétique en texte et en chanson, de refaire un zoom sur l'actualité des migrants, quoi, qui est quand même une grosse problématique. Et indirectement, il y a quand même un lien avec l'eau, c'est-à-dire qu'au niveau des grands enjeux planétaires, il faut savoir que d'ici quelques années, quelques décennies, donc le nombre de réfugiés climatiques va augmenter. Alors les migrants du moment ne sont pas toujours des réfugiés climatiques, loin de là, mais ça ne va pas tarder. Donc il y a un lien direct aussi avec cette chanson.
Venu des hauts plateaux, incendié par la guerre, écrasé de soleil les fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, dévorées par le sel. On avait tous un jour imaginé la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murènes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas. On est venu à pied, du fond de la misère, on nous arrête pas. Retourne à la maison, et si j'en avais une, je ne serais pas là. Et la mer engloutit dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murènes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Imaginez la mer. Nous dormons dans des villes, ombres parmi les ombres, des longs couteaux tirés. À deux doigts de l'Europe, qu'on a rêvé si fort, on commence à douter. Tu es resté debout, devant les barbelés, sous le ciel minéral. Tu commences à ramper, en dessous du silence et dans l'oubli total. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murènes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer.
Voilà, un retour donc dans cette émission avec Nelly Kars et Bruno Lambert, nos aventuriers dont on ne cesse de parler en ce moment autour du projet Water Stories notamment. Ce choix de chansons...
Ce choix de chansons, en fait, hors antenne pour les auditeurs, on était en train de discuter avec toute l'équipe de Fréquence Mistral, donc il y a deux jeunes stagiaires qui étaient très très attentives. Et j'étais en train de parler des futurs réfugiés climatiques qui existent déjà depuis un certain temps, quoi. Alors c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que cette problématique est complètement actuelle. Bon, moi, je pars 30 ans en arrière. Il faut savoir que 30 ans en arrière, j'ai battu un record du monde au pôle Nord, que la banquise était en train de fondre, qu'on avait déjà dû témoigner auprès du ministre de l'Environnement canadien pour dire qu'effectivement, le territoire du Nord-Ouest était en train de fondre. Je me suis retrouvé dans des situations, je dirais, un peu identiques dans le désert et en Amazonie, où les problématiques du réchauffement climatique étaient déjà très, très, très palpables 20 ans, 15 ans en arrière. Et c'est vrai que cette chanson, moi, me touche énormément parce que, bon, je trouve ça très, très beau et très, très poétique. Mais c'est vrai que ça nous ramène aux autres réfugiés climatiques qui sont donc des gens qui vont subir la montée des eaux. Alors là aussi, c'est pas du tout un phénomène nouveau. Ça fait très longtemps que les océans montent. Alors c'est pas parce que les banquises fondent ou pas, c'est loin de là. C'est parce qu'en fait, le climat se réchauffe et automatiquement, l'eau va se dilater et va augmenter. Et Nelly, qui est ici à mes côtés, a vécu quelques années, enfin une bonne dizaine d'années, sur un atoll du Pacifique. C'est aussi pour ça qu'elle est partie dans l'eau. Et 10 ans en arrière, a déjà vécu la montée des eaux sur certains petits atolls, tout simplement. Alors, la montée des eaux, c'est quoi ? Ben, c'est vous avez votre case, votre village qui est au bord de l'eau. Et puis petit à petit, ben, vous avez 10 cm, 20 cm, 30 cm. Après, on déplace les tables et les chaises, etc. etc. Bon, c'est facile à comprendre. Alors actuellement, qu'est-ce qui se passe sur la planète ? La disparité est partout, dans tous les domaines. Il y a des déserts qui sont riches, des déserts qui sont pauvres. Il y a des atolls qui sont riches, des atolls qui sont pauvres. Alors je fais très très simple. Si on prend les atolls de l'océan Indien, comme les Maldives ou les Seychelles, donc ce sont des gros spots touristiques qui, eux, vont générer énormément de devises. Donc ces gens-là auront les moyens, même si c'est triste, une déportation est toujours triste, de racheter des terres ailleurs et de se repositionner. Ça, c'est clair. En revanche, il existe des milliers de petits îlots et d'atolls du Pacifique Sud et d'Indonésie qui, eux, n'ont pas les moyens de ces gros spots touristiques. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, effectivement, un chapelet d'atolls vient à être noyé ? Eh bien, les gens vont être évacués par des moyens de fortune. On va les récupérer sur des grosses mégapoles, si possible, dans les ghettos. Les enfants vont partir au trafic de drogue, criminalité, prostitution, et on repart pour un tour. Tout ça à cause du réchauffement climatique et donc à cause de l'eau, cette fois-ci, qui monte. Alors, on ne va pas dire que c'est à cause de l'eau. Attention, parce que c'est quand même l'humain qu'on est à l'origine. Hein. Bon, il y a toujours eu des cycles de réchauffement sur la planète, on le connaît. Mais effectivement, bon, bah, le dernier cycle est très, très accéléré. Quoi. Voilà. Donc, il y a des conséquences directes sur l'humain. Alors là, on ne parle pas de l'eau douce, on ne parle pas de la Dame des Lacs, on ne parle pas des lacs provençaux. Hein, c'est juste le lien que je fais avec la chanson de Bernard Lavilliers sur les migrants. Alors, si Nelly veut, à la limite, témoigner de ce qu'elle a vu, profiter de l'occasion dans le Pacifique Sud, je ne sais pas.
Alors oui, je peux témoigner de ce côté-là, mais faire également le lien direct avec le challenge de la Dame des Lacs. Tout simplement parce que dans le Pacifique, effectivement, j'ai déjà pu assister à la montée des eaux. Alors, ce n'est pas tout à fait 10 cm par 10 cm, mais c'est plutôt de manière assez violente et ravageuse. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un cyclone qui passe. Normalement, ça devrait passer correctement. Et puis, en fait, le cyclone, il va grignoter 50 mètres de plage. Et 50 mètres de plage, on ne va pas les retrouver. Donc, les choses avancent d'un coup brutalement. Alors effectivement, ce genre de choses, c'est courant. Il y a des tas de gens qui le vivent au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui vivent sur des atolls et qui enseignent à leurs enfants leur culture, leurs coutumes, sachant pertinemment que c'est tout ce qui leur restera. C'est-à-dire qu'au niveau de la Terre, prochainement, ben, ils n'en auront plus. Ils n'auront plus que leur culture, leur langue et leurs coutumes pour véhiculer leur passé. Donc ça, c'est assez poignant. Durant le challenge de la nage, je me suis retrouvée sur une situation qui pourrait être similaire, mais sur absolument pas le même but. J'ai nagé sur des lacs ennoyés, donc des gorges ennoyées, des vallées ennoyées, pour un but très précis. C'était pour tout simplement pour que les barrages puissent permettre une bonne production d'hydroélectricité, que le canal de Provence puisse desservir en eau potable et agricole la majeure partie de PACA. Donc tout le visage de PACA a changé par rapport à ça. Mais ces gorges-là et ces vallées-là ont quand même une histoire assez similaire. Il y a eu des populations qui ont été déportées, avec une vie complètement différente actuellement, et qui bénéficient maintenant en fait des bonnes retombées du tourisme, entre guillemets, parce que ce n'est pas toujours simple, autour d'un lac. Ce ne sera pas le cas de ces réfugiés climatiques, pas du tout. Donc on n'est pas du tout sur la même approche.
Bien. Vous avez des questions, les filles ?
C'est assez intéressant.
Pardon.
C'est assez intéressant. On découvre que bah, y a plein de choses que je ne pensais pas que ça serait aussi terrible, en fait. Comment dire, que ça touche beaucoup de populations dans le monde entier. Donc, c'est vrai que de dire que des personnes de notre âge ne sont pas dans la même. La même idée de notre richesse, en fait, qu'on ne puisse pas être aussi bien dans notre maison, dans notre lit, tranquillou, à se dire que demain, il peut risquer d'avoir 50 mètres de la plage ravagée, quoi.
Bah, c'est un très bon constat hein, que tu fais, là, parce que, bon, je suppose que vous avez toutes les deux une quinzaine d'années, quoi.
Oui.
Hein, c'est ça. Avec certaine conscience des réalités, parce qu'en fait, tous les collégiens ne l'ont pas. Donc déjà, moi, je vous conseille de diffuser ce genre d'informations autour de vous et d'en parler. C'est vrai qu'en France, on fait partie des territoires les mieux lotis. On a tout. Malheureusement, on gaspille aussi beaucoup. On se plaint beaucoup. C'est bien dommage. Alors bon, moi, c'est vrai qu'on n'a pas fait de retour sur les marcheurs de la Terre, mais je profite un petit peu de l'occasion. Moi, ça fait 30 ans que je bourlingue sur toute la planète, dans les milieux les plus extrêmes de la planète, à traverser les déserts à pied, tout seul ou en équipe, etc., etc. Et cette misère, moi, j'en ai été conscient, ben, dès votre âge, en fait. Hein. Donc ce qui fait que ben, j'ai grandi dedans. Je ne vais pas dire que j'ai grandi dans la misère. J'ai grandi en tant que témoin, effectivement, de peuples qui n'ont pas la même qualité de vie que chez nous. J'ai passé des années dans le désert à vivre avec des nomades qui pouvaient parcourir 5-6 km avec effectivement des outres en peau ou alors des seaux en pneus pour aller chercher l'eau tout simplement. Donc l'eau du quotidien, eh ben, effectivement, c'est l'eau de boisson pour le thé, etc. etc. Pour se laver, ben, il n'y en a pratiquement pas. Mais pourtant, il y a de l'hygiène, mais bon, ben, voilà, elle est gérée différemment. Les gens ont très peu d'eau pour arroser les jardins, donc ils utilisent des techniques qui sont les murs de condensation. Alors le mur de condensation, c'est qu'il fait froid la nuit, il fait chaud le jour. Donc quand vous avez une surface effectivement qui se refroidit plus vite, il va y avoir des gouttelettes qui vont condenser et qui vont arroser les jardins. Les jardins, il ne faut pas imaginer des hectares de maïs comme chez nous où effectivement on balance de l'eau de tous les côtés d'une manière complètement ridicule. Mais là, c'est un filet d'eau qui va arroser les quelques oignons ou les quelques effectivement légumes qui vont nourrir la tribu, quoi. Alors c'est quand même bien d'en reparler. Il faut savoir aussi que moi j'ai travaillé pas mal de temps à Bornéo en Indonésie. Le Bornéo, c'était l'une des îles les plus sauvages du monde encore à l'époque. Et à cette époque-là, on a rasé les mangroves. Alors les mangroves, c'est quoi? Ce sont les forêts littorales, c'est-à-dire ce sont des forêts immergées qui tantôt sont dans l'eau et tantôt sont à l'air libre. En fait, ces mangroves, ce sont des barrières physiques et chimiques qui permettent à la terre d'être isolée de l'océan. On a voulu raser les mangroves pour faire des bassins d'aquaculture pour manger effectivement les poissons, les crevettes qu'on a actuellement dans les supermarchés surgelés à bas prix. C'est bien, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en l'espace de quelques années, cette barrière physique et chimique ayant disparu, l'océan est rentré dans les terres. Elle n'a pas pu filtrer, effectivement, naturellement, avec la racine des arbres et puis la terre, le sel qui est dans l'eau de mer, quoi. Et du coup, toutes les nappes d'eau douce ont été salinisées. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va créer de l'argent en fabriquant des crevettes, mais les gens n'ont plus d'eau pour boire. Donc c'était un petit peu ironique, quoi. Donc du coup, l'argent qu'ils gagnent, eh ben, ils vont se débrouiller pour trouver des moyens de locomotion pour aller chercher l'eau plus haut. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et actuellement, sur les planètes, eh ben, c'est ça un petit peu partout, quoi. Voilà. En Amazonie, c'est la même chose. Bon, moi, j'ai travaillé des années en Guyane française et un petit peu au Brésil. Bon, là-bas, la problématique, c'est l'or. Bon, ben, il y a énormément d'or. Et vous savez que pour extraire l'or du sol, il faut laver les sols avec donc des grandes rampes. Alors effectivement, bon, ben, ça va créer beaucoup de boue. Cette boue-là va tomber effectivement dans l'eau. Automatiquement, la lumière ne passe plus dans les cours d'eau. Si la lumière ne passe plus, eh ben, effectivement, il n'y a plus de production de végétaux. Les végétaux sont les premiers maillons de la chaîne alimentaire. S'il n'y a plus de végétaux, il n'y a plus d'animaux. S'il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de population humaine. Or, toutes les populations riveraines qui pouvaient être donc des Amérindiens avec des modes de vie plus ou moins traditionnels sont aujourd'hui privées de nourriture, tout simplement parce que les cours d'eau sont occultés par de la boue. Ça, c'est une chose. Deuxième point, pour arriver effectivement donc à récupérer les particules d'or, on utilise un produit qui s'appelle le mercure. Le mercure, c'est ce qu'il y a dans le thermomètre. C'est un poison très, très toxique. Donc il faut plusieurs décennies pour que le mercure s'évacue dans l'environnement. Et actuellement, ben, les Amérindiens de Guyane, du Brésil et d'ailleurs ont des problèmes de malformation donc provoqués par le mercure, une fois de plus. Qu'est-ce qu'ils ont touché, eux, comme or? À quoi ça leur a servi? Ils n'ont rien touché du tout. On leur a enlevé leur milieu de vie, on leur a enlevé leur nourriture. Les enfants sont malades, etc., etc. Et ça, c'est ce qui se passe partout. Et ça vient de nos pays, et ça vient de chez nous. Donc il est très, très important, effectivement, à votre âge, de comprendre ces phénomènes-là, voire même d'orienter sa vie là-dessus. Parce que c'est passionnant, c'est fascinant, quoi. Et je trouve que ta remarque est vraiment pertinente, quoi. Mmh. Vous faites partie des adolescents les mieux lotis du monde.
Alors j'en profite pour refaire un petit lien entre ce que tu viens de dire et ta remarque. J'ai oublié ton prénom.
Clémence.
C'est vrai qu'actuellement on a une connaissance qui est grâce au réseau internet, elle est à portée de clic, cette connaissance. L'humanité n'a jamais été dans cette situation-là. Actuellement, on peut connaître des tas de choses. simplement en se connectant. On fait partie des populations les mieux loties, effectivement, les plus riches, les mieux éduquées, celles qui peuvent, par simple curiosité, augmenter leurs connaissances. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faudrait stimuler, selon moi, et puis finalement selon nous, parce que c'est notre démarche, c'est la curiosité. Ça se perd, cette démarche-là. Si vous êtes intéressé par justement le réchauffement climatique, la montée des eaux, il suffit finalement maintenant de googliser et on a des tas d'informations qui arrivent. Donc l'outil Internet qui devient vraiment addictif et devient très dangereux, c'est évident, devient un outil formidable pour celui qui a vraiment envie d'utiliser. Il suffit d'être curieux.
Alors, ce que dit Nelly, c'est très intéressant parce que c'est à double sens. Non pas parce que ces outils-là sont addictifs, mais tout simplement parce que les populations dont je vous parlais tout à l'heure, il y a 30 ans, était complètement isolé au milieu du désert. Aujourd'hui, effectivement, on va trouver l'équivalent de cybercafé avec une énorme parabole au milieu du Sahara ou au milieu de la jungle. Alors, si on prend effectivement des populations qui sont isolées au milieu du Sahara, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont quasiment rien à manger, mais qui ont Internet, et d'un clic, ils peuvent comparer leur situation avec ce qui se passe juste en face à Las Vegas, il y a de quoi se poser des questions. Alors, pourquoi je parle de Las Vegas ? Parce que Las Vegas, c'est une ville qui a poussé en plein désert et il y a de l'eau partout. Des jets d'eau, des cascades, etc., etc. Donc il est évident que ces pauvres gens qui voient ça d'un clic sur Internet, hein, donc c'est un petit peu le revers de la chose, pour peu qu'ils soient motivés par des groupes plus ou moins extrémistes derrière, vont de toute façon se rebeller aussi contre notre système. Malheureusement, c'est très légitime. Voilà. Et ça va générer encore des problèmes. Donc, et on parle de l'eau, tout simplement. Donc à partir de l'eau, à partir de l'air, à partir de toutes ces ressources environnementales, écologiques, le bois, etc., le poisson, on va générer effectivement des conflits qui seront sans précédent, quoi. Donc il est vraiment temps maintenant que tout le monde en prenne conscience. Et pour le coup, je reviens sur l'aspect positif d'Internet. Voilà, parce qu'en fait, l'ère du numérique nous permet effectivement de multiplier donc les vecteurs de connaissances et de rentrer très très loin dans la vie des gens. Voilà. Par contre, il ne faut pas oublier que la véritable transmission se fait par la parole. Donc moi, je vous le conseille. Le bouche-oreille, ça marche très bien. Voilà. Et nous, de notre côté, quand on intervient vraiment fort, c'est sur les grosses conférences. Voilà. Là, on touche vraiment du monde, comme on est en train de le faire maintenant sur le plateau, tout simplement.
Alors, on va profiter de cette histoire d'Internet pour dire qu'on peut retrouver vos films et documents donc sur Facebook, sur les sites. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Nelly ?
Alors, il y a plusieurs sites autour des Marcheurs de la Terre qu'on peut trouver en ligne, effectivement. Donc, tout à l'heure, on parlait du film de la Dame des Lacs. Il faut savoir qu'on a récemment créé une chaîne YouTube. Et une partie des images de ce film est déjà en ligne sous forme de petits clips. Donc, des clips courts qui ont servi à la promotion du projet. Et donc, il y a des thématiques diverses, souvent en musique. Ce sont une partie de ces images-là seront retrouvées plus tard dans le film.
Donc la chaîne YouTube s'appelle comment ?
C'est Les Marcheurs de la Terre, tout simplement. Donc il n'y a pas que des images sur la Dame des Lacs, évidemment. Hein. Il y a aussi des clips d'archives. C'est une chaîne récente qu'on a voulu sobre et dans la ligne éditoriale des Marcheurs de la Terre. Ensuite, on a la page Facebook qui a été construite vraiment dans le même esprit. Donc actuellement, bon, c'est vrai que Facebook est un outil vraiment incontournable. Donc c'est la page Facebook des Marcheurs de la Terre. Donc on l'a voulu également sobre et à l'opposé du cliquage compulsif, si j'ose dire, tout simplement pour stimuler une véritable curiosité de la part du public. On a aussi le site de l'association Médiataire PACA. Donc sur le site de l'association Médiataire PACA, on retrouve exactement toutes les mêmes actualités que sur la page Facebook, sauf que les personnes qui ont décidé de ne pas vivre avec Facebook, ce qui est tout à fait compréhensible, peuvent retrouver l'info là-dessus. Donc c'est l'association Média Terre PACA. Ensuite, il y a le site officiel des Marcheurs de la Terre. C'est un site très dense, très conséquent. Et on va se retrouver beaucoup plus sur des projets anciens, des archives. Et il y a un onglet actualité qui est en cours d'actualisation.
Voilà, ben merci. Ces renseignements sont capitaux pour en savoir plus. Il nous reste quelques minutes. On va peut-être venir sur les projets 2018. C'est la finalité du montage documentaire La Dame des Lacs.
Et également, donc, idéalement, ce serait bien qu'en 2018, on ait constitué tous les supports dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, si tous ne sont pas complètement réalisés, c'est pas bien grave, mais à la limite, ce qu'il faudrait, c'est que le film soit accompagné au moins de l'exposition itinérante, parce que c'est vrai que, on va dire que ça meuble les salles, et ça permet après, je dirais, de développer un débat, voire même avant, dans la présentation, avec le public, notamment les écoles, parce qu'en En fait, les panneaux d'expo sont assez ludiques, sont assez jolis. Ça, c'est assez important. Je pense que la partie série de clips, elle, va chevaucher 2019 parce qu'il y a un très, très gros travail, autant dans sa préparation que dans les montages, sachant que tous ces projets-là coûtent quand même beaucoup d'argent. Et que, ben voilà, donc la face cachée des marcheurs de la Terre, hein, comme du groupe, je dirais, d'éducateurs à l'environnement, c'est la recherche quasi perpétuelle de financement. Hein. Ceux qui sont dans le même cas, donc, me comprendront très bien. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'un projet comme la Dame des Lacs, ça ne coûte rien du tout. Même si ça ne se passe pas au bout du monde, en Amazonie ou sur la banquise, hein, ça coûte énormément d'argent. Sans l'intervention de certains partenaires bénévoles ou autres, on n'aurait pas pu le faire. Et actuellement, on est encore et toujours en train de chercher des partenaires financiers et techniques pour la réalisation de ces supports. J'aimerais beaucoup qu'à l'issue de 2018, je suis peut-être un peu optimiste, que effectivement les premières interventions puissent démarrer. Voilà. Alors, entre-temps, il y aura déjà des petites interventions publiques, comme on en a fait déjà à droite à gauche, des micro-conférences, des conférences de presse, où effectivement, on fait de l'information et de la sensibilisation. On n'aborde pas vraiment le volet éducatif. Hein. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'on puisse effectivement donc proposer tout ça à l'issue de l'année 2018. Alors, je rappelle, le public, ce sont les établissements scolaires. Ça peut aller de la toute petite école avec des mallettes pédagogiques où les enfants vont toucher de la matière en regardant des jolies images de poissons, de montagnes. Donc, c'est déjà une approche de l'eau. En passant par les collèges, où là, on développe un petit peu plus. Les lycées, on va encore développer un peu plus. Et puis après, on rentre carrément dans les formations. Alors, ce sont des formations qui peuvent aussi s'inclure dans les formations des brevets d'État, enfin des PPGEPS, ou des diplômes d'État qui sont rattachés à la montagne, à l'eau, à l'eau vive, etc. Et après, il y a tout un volet qui s'adresse au grand public. Alors là, ce sera plus, on est plus dans du standard, hein, c'est-à-dire salle de cinéma, salle des fêtes, salle de mairie, effectivement, avec une conférence et débat. Et puis après, il y aura également un volet qui s'adressera aux estivants. Alors ça, c'est un partenariat que l'on pourrait avoir avec les communautés de communes, le parc du Verdon, etc., et d'autres intervenants locaux. Sur les gros sites, les sites à surfréquentation touristique. Alors là, je parle précisément du lac de Sainte-Croix, du lac de Serponçon, un petit peu moins de Castillon, du lac d'Esparron, des gorges du Verdon, où effectivement, pendant l'été, ils ont une surfréquentation qui nuit à l'environnement. Ces gens-là ont besoin d'être informés, même s'ils le sont déjà par les institutions en place ou les organismes comme le parc du Verdon notamment. Leur donner un petit coup de pouce, ce serait pas trop, quoi.
On s'est aperçu également que c'est souvent les offices du tourisme qui ont à recevoir la plus grosse masse du public et les informer en fait de quelques gestes nécessaires à adopter autour des lacs. Et le manque de temps qu'ils ont, ces offices de tourisme, quand il y a la grosse affluence de tourisme en été, est phénoménal. Ils ont tout simplement le temps pour donner quelques infos et aux gens, à eux, après, de prendre leurs responsabilités, alors qu'ils sont dans une phase où finalement ils décrochent un peu des responsabilités parce qu'ils sont en vacances, et ils soufflent, donc ils se dégonflent. Tout simplement comme de gros ballons qui sont vraiment épuisés. Et souvent, on se retrouve avec des personnes qui, d'habitude, ont l'habitude de trier leurs déchets ou faire ce genre de gestes et qui, soudain, abandonnent complètement. Ils quittent le navire pendant quelques temps parce qu'ils sont en vacances et qu'ils décrochent et qu'ils sont épuisés. Donc, durant l'été, il y a vraiment une grosse affluence qui a besoin vraiment d'une grosse piqûre de rappel.
Alors, c'est considérable hein, parce qu'on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes jour sur tout le territoire des lacs du Verdon, par jour. Hein, c'est énorme. Hein. On en parlait récemment avec l'une des responsables des offices du tourisme, enfin la responsable de tous les offices du tourisme Verdon Rive Gauche, qui nous disait qu'elle disposait de 3 minutes par personne pour transmettre les informations sur la visite touristique patrimoniale, la sécurité et l'écologie. Qu'est-ce que vous voulez faire en 3 minutes ? Alors le clin d'œil, ben voilà, l'exemple qu'elle nous a donné notamment, c'était la prévention des pollutions des lacs, vous savez par quoi ? La crème solaire, tout simplement. Alors on le sait de plus en plus, mais c'est vrai que les gens ont tendance à se surbadigeonner de crème solaire, c'est nécessaire la crème solaire, surtout pour les gens qui viennent du Nord, ça c'est clair. Le problème, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Et effectivement, cette crème solaire, on la retrouve telle des nappes d'huile, hein, véritablement des nappes d'huile sur les zones de plage. Donc, et ces nappes d'huile empoisonnent l'écosystème, rien que ça, hein, tout simplement. On ne parle pas effectivement des poubelles comme parlait Zenelli ou des parkings où les gens se permettent d'aller jusqu'au bord de l'eau avec des 4x4, c'est complètement ridicule. Donc je pense que là aussi, il faut redonner un coup d'information. Je vois qu'Odile regarde la pendule.
Oui, oui, voilà. Est-ce que vous avez envie de parler, parce que là, je vois sur ce dossier de presse que vous m'aviez envoyé, l'écriture du projet Posidonia, tout ça, ça fera partie d'une autre émission ou on peut en dire des mots.
Voilà. Ouais, on en avait déjà parlé l'an dernier. Bon, on y allait sur la pointe des pieds. On va dire qu'on commence à écraser le pied, mais on y va toujours doucement, quoi. Alors, le projet de Posidonia, la Posidonie, pour rappel, la Posidonie, c'est une plante marine qui correspond sensiblement au corail de la Méditerranée. C'est-à-dire que la Méditerranée, l'équilibre écosystémique de la Méditerranée dépend en grande partie de cette plante-là qui est en danger. Donc Posidonia dans l'Antiquité, c'est la fille de Poséidon, on va dire, le dieu de la mer. Posidonia, c'est le nom qu'on a donné au deuxième volet de Water Stories, enfin donc Water Stories 2, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la Dame des Lacs, en plus important, mais cette fois-ci pour donner un coup de klaxon sur la...